Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Titre enregistré au Centre Pompidou. Pour cette émission, et dans le cadre du Festival Hors Piste 2024, nous recevons l'artiste Gwenola Wagon. Bonne écoute.
Gwenola, je vais commencer par quelques mots rapides pour te présenter, puis n'hésite pas à revenir après corriger mes erreurs. Donc tu es artiste et chercheuse, ta démarche multidisciplinaire explore les intersections entre le numérique et le monde physique. Titulaire d'une thèse en esthétique, sciences et technologies des arts, tu es également maître de conférences à l'université Paris 8. Tu as une production artistique variée comprenant des films, des œuvres interactives, des installations, des performances et des livres qui interrogent sur les lieux d'Internet, les algorithmes, le mode de vie urbain, le travail et mènent des expériences sur le comportement humain.
Je suis à Paris, hein, mais c'est pas... Non, j'ai changé. Et prof.
Oui.
C'est parfait.
Est-ce qu'on peut peut-être commencer tout simplement par ta formation et est-ce que tu peux nous raconter comment on en vient à ce que tu fais aujourd'hui, grosso modo.
Alors, un chemin tortueux, ouais. Pas du tout lisse et droit, contrairement à d'autres peut-être, l'idée qu'on peut s'en faire. Moi, j'ai commencé par que des empêchements et des sortes d'impasses. Donc, j'ai commencé par vouloir faire du théâtre, de la danse, de la musique. Et à chaque fois, je me suis heurtée à certainement mon incompétence ou ma maladresse ou en tout cas l'impossibilité d'y arriver. Donc, beaucoup d'échecs. Et puis, j'ai fini par me dire que l'art plastique, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus, moins difficile pour moi. Et je me suis orientée vers une prépa, comme pas mal de personnes qui ont fait de l'art. Et là, j'avais vraiment des velléités de revenir vers le théâtre ou le monde du spectacle vivant. Donc, j'ai voulu faire les arts déco pour faire scénographe.
D'accord.
Donc après une difficulté d'y rentrer, je suis rentrée, j'étais très heureuse. Et puis je me suis rendu compte que la scénographie, c'était tout aussi catastrophique. Le design de vêtements, enfin, je me plantais beaucoup, je faisais beaucoup d'erreurs. Et puis la vraie envie que j'avais, mon désir le plus secret que j'osais jamais dire, c'est que je voulais faire du cinéma. Enfin, je voulais être réalisatrice de films. Et là, je pense que beaucoup de ma génération ont vécu ça à l'époque. Dans les années, en tout cas 2000, si on n'avait pas fait la FEMIS et qu'on n'était pas fils ou fille d'eux, on avait l'impression que c'était impossible de faire du cinéma. Donc moi, je fais un peu partie de cette génération-là qui se sont dit, on n'est pas bien nés, quoi. Donc je me suis interdit de dire ça. Enfin, c'était un vrai secret. Et donc je me suis dit, ouais, mais peut-être monteur à la rigueur, audiovisuel, un truc un peu dérivé, ça pourrait peut-être éventuellement marcher. Donc j'ai foncé dans la section vidéo de l'ENSAD, où là, j'avais l'impression qu'ils s'éclataient, qu'ils se faisaient plaisir, alors que les autres avaient l'air d'être un peu pris dans des trucs un peu plus professionnalisants. Et puis, en fait, c'était un peu la catastrophe. C'était pas une section facile à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on était un peu tout seul, livré à nous-mêmes. Et là, j'ai commencé à me dire qu'effectivement, j'aimais monter. Enfin, j'aimais l'image en mouvement, quoi. J'étais passionnée de ce monde. Mais toujours pareil, beaucoup de complexes. Énormément de complexes et beaucoup d'interdits. Et en plus, aux arts décoratifs de Paris, c'est pas forcément l'art à l'époque n'était pas forcément l'artiste n'était pas c'était pas forcément bienvenu d'être artiste. On devait plutôt être dans l'art appliqué, donc j'avais un peu des complexes aussi par rapport à
aux arts déco.
Voilà, aux arts déco de Paris. Donc il y avait un peu toute une vision de l'impression d'être en marge du monde de l'art. Et puis progressivement, j'ai compris que. Alors je fais un peu long, mais j'ai eu mon diplôme et j'ai eu l'impression que j'avais rien appris à la fin, que je savais rien en fait. Et donc j'ai lorgné un peu sur les post-diplômes qui commençaient à émerger. Et là j'ai vu qu'il y avait un post-diplôme qui s'appelait Atelier de recherche interactive avec des personnes nouvelles que je connaissais pas. Je me suis dit plutôt que de m'enfuir et de tomber dans un grand vide, j'allais essayer ça. Et donc, j'ai rencontré là une équipe de personnes qui venaient de l'université notamment Jean-Louis Boissy et Liliane Terrier, des professeurs d'université qui, en gros, m'ont vraiment tout appris. J'ai tout découvert, y compris l'art contemporain, que j'avais vraiment pas. J'étais passée à côté de plein d'artistes, etc. Et là, je me suis rendu compte que l'université qui m'avait été présentée comme un lieu cauchemardesque était en fait un univers assez intéressant. Et donc, je me suis mis un peu dans ce post-diplôme entre les deux. Et tout en travaillant à côté comme un peu graphiste pour alimentaire, j'ai commencé à me dire, ah oui, pourquoi pas, je pourrais peut-être faire une thèse, essayons. Et voilà, et puis tout ça, ça s'est après, c'est parti comme une sorte de fil. Mais toujours avec l'idée que je passais quand même à côté du film, et j'avais toujours l'impression que c'était en marge du vrai rêve que je voulais, c'était faire des films.
D'accord.
Et donc là, il y a eu un moment de révélation où... après ma thèse, j'ai travaillé avec un autre artiste qui s'appelle Stéphane de Goutin. Et là, on nous a commandé un projet de réalisation in situ dans un lieu, une sorte de musée in situ. Et là, on a eu un coup de foudre pour un espace tellement incroyable qu'on s'est mis à filmer. Et comme j'avais un peu de maîtrise sur la pratique du montage et tout, on a fait un film et je me suis rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, le déclic est arrivé. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible.
Oui.
Et là, tout est sorti. Voilà. Mais c'était très, très tortueux. Je ne sais pas, c'est un peu long.
Bon, c'était bien, c'était très clair. Et du coup, toi maintenant... Enfin, tu t'attendais à vivre comme ça en sortant de cette thèse et de ce parcours-là ?
Ah bah non, pas du tout.
Tu voulais faire des films, mais ça ressemble à quoi en fait, du coup ?
Au départ, je voulais être pendant très longtemps, j'ai voulu être monteuse parce que j'aimais le montage. Donc ouais. Là, je voulais monter pour d'autres. Et j'avais l'impression que là, j'avais quelque chose à pouvoir produire et surtout, je voulais être au service d'autres artistes. Et puis, voyant que c'était possible progressivement, en fait. Et voyant aussi... Alors, en fait, j'ai un petit côté... dans le côté tortueux, le côté encore plus tortueux que je n'ai pas dit, c'est que quand je me suis inscrite pour faire une thèse, donc des recherches universitaires, j'étais, je crois, la personne la plus complexée du point de vue de l'écriture au monde. Enfin, à mon sens, vraiment, je ne savais pas écrire du tout. Une ligne, c'était l'enfer... à chaque fois 50 000 fautes. Enfin, vraiment, c'était le pire médium pour moi, alors que j'ai adoré ça, mais il y avait une incapacité totale. Donc, en fait, je me suis mis vraiment dans des choses impossibles, un peu comme s'il fallait monter l'Everest et qu'on était paraplégique. Voilà, ouais, c'était vraiment ça. Donc, à partir du moment où je me suis mis dans un truc tellement impossible, je crois qu'après, ça a été tellement difficile et en dehors de mes compétences que j'ai fini par apprendre, que je me suis progressivement... je suis récemment revenue vers mes premières amours qui étaient le cinéma, le film, la musique. Et donc j'ai fini au bout de, on va dire, presque 15 ans de formation à arriver à mes fins.
Donc,
et effectivement, le rêve de départ, j'ai fini par y arriver, mais peut-être qu'il m'a fallu 20 ans.
Mais justement, c'était ça, ma question, c'était ça, c'est t'es arrivé à tes fins. C'était quoi tes fins et en quoi elles sont différentes ou pas d'ailleurs de l'image que t'en avais?
Mes fins, c'était d'être dans le milieu du film, mais que je n'avais pas vraiment monter des films. Voilà, c'était d'être dans le cinéma. Mais je ne savais pas forcément, je savais pas ce que ça voulait dire d'être dans le cinéma. En fait.
Ouais.
Mais d'être dans un milieu de temporel. Quoi. Quand on monte, on est un peu dans l'espace-temps. Ça, c'est ça qui est assez agréable. Et donc ça, vraiment, je pense que je suis comblée là-dessus. Mais là où je n'avais pas du tout réalisé, c'est que pour arriver à ça, il a fallu que je... passe par le côté académique, universitaire, recherche, mélanger la recherche avec l'art, inventer des systèmes, trouver des écosystèmes, en créer. Tout ça, ça a été une entreprise qui avait pas du tout, que je connaissais pas, je savais même pas que ça existait. Donc tout un univers s'est découvert.
Oui, c'était pas prémédité. Ce dialogue recherche, art, etc. Est apparu au fur et à mesure de ta thèse.
Voilà. En fait, le raccourci logique, ça aurait été je fais la fémise, je tente, ou je fais la lumière, je suis cinéaste. Ça aurait été la chose, le vrai raccourci. Mmh. Mais non, en fait, m'interdisant ça, parce que c'était un interdit, j'ai fait tout le crochet par le chemin de traverse.
Voilà. Où est-ce que tu produis aujourd'hui ? Comment ça se passe pour toi ?
Alors, en fait, peut-être que c'est ça le vrai chemin de traverse. Je me suis aussi rendu compte qu'en fait, le cinéma qui m'intéressait, c'était pas forcément le cinéma qui était ni au cinéma, ni forcément dans les expositions. et qu'il était un peu partout, mais en même temps un peu nulle part. Il était assez transversal, ce type de cinéma. Donc, c'est souvent le film essai, le film entre art et fiction. Et progressivement, aujourd'hui, ça paraît évident, mais progressivement, c'est un peu les artistes qui se sont mis à faire ce cinéma-là, ou ces vidéos-là, ou ces installations vidéo-là. Et notamment, le cinéma des artistes m'a en fait plus intéressé que le cinéma des cinéastes. Et j'ai trouvé que là, dans cet inconfort, il y a un inconfort à faire un film quand on n'a pas les moyens de studio, etc. C'est là que ça semblait le plus intéressant. Et l'économie, que je dirais l'économie pauvre, c'est-à-dire une économie qui n'est pas celle du millionnaire, c'est pas celle des gros budgets, c'est pas celle de forcément un travail de réalisateur classique, mais c'est une économie qui va travailler sur des situations de plein de petits budgets, plein de petits lieux. Donc en fait, je me suis retrouvée, finalement, je me retrouve dans une position d'être en permanence entre des lieux, entre un peu le cinéma, un peu les festivals, un peu les centres d'art, un peu les musées, un tout petit peu l'architecture, la géographie. Voilà, je suis que dans des trucs intermédiaires. Et c'est du coup très, très bizarre. C'est vrai que c'est bizarre, quoi.
Ça, l'administration, elle ne doit pas aimer beaucoup. Tu ne sais pas quelle case cocher, du coup, quand tu dis que tu es artiste, cinéaste, vidéaste.
Ma famille, c'était très compliqué, même pour quand quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce que tu fais, au fait, toi, au juste voilà, il y a toujours eu ce malaise, mais qu'on a tous connu dans l'art contemporain. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Enfin, des fois, il y a un grand trouble qui s'installe parce que. Un vertige.
Un beau vertige, effectivement. Moi, mon père ne sait toujours pas ce que je fais. Vraiment, il appelle ça des tableaux. Ce qui m'agace de manière constante depuis 12 ans. Quelles sont les contraintes et les freins que tu rencontres dans l'élaboration d'un travail ?
Alors, déjà, je fais beaucoup de collaborations. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Stéphane de Goutin, avec qui je travaille encore. On est souvent associés sur plein de projets ou de commandes, etc.
C'est ce que j'ai lu beaucoup sur les différentes présentations de ton site, etc. Mais je préfère qu'on en discute peut-être comme ça. Voilà.
Et puis, il y a aussi d'autres artistes, des écrivains, Pierre Kasounoguès, avec qui on a beaucoup travaillé, avec qui je continue aussi pas mal de collaborations. Et du coup, ces collaborations... ont un avantage assez indéniable, c'est que quand je travaille seule, ce qui m'arrive aussi, moi j'ai tendance à me mettre beaucoup de freins et à être vraiment dans une très forte autocensure, et donc à être en permanence dans une sorte de crise existentielle, comme pas mal d'artistes. Alors qu'en travaillant en collaboration, il y en a toujours un qui débloque l'autre et qui le pousse en avant. Et grâce à ces collaborations, j'ai vraiment pu dépasser ces freins. Qu'ils soient des freins mentaux, enfin souvent c'est des freins conceptuels, de s'interdire d'imaginer un truc ou de le faire ou d'aller chercher tel argent à tel endroit parce qu'on se dit ah ben non, on va être refusé. Donc tout ça, ça a été très désinhibant de travailler en collectif. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question.
Complètement, complètement. Tu habites Paris.
Oui.
Et qu'est-ce que tu penses de cette centralisation ? Est-ce que c'est important d'habiter Paris là, aujourd'hui, pour toi ?
Je dirais que c'est très problématique. D'abord parce que c'est très cher.
Ouais.
Donc c'est une économie extrêmement complexe. Alors soit j'ai l'impression de rencontrer plusieurs cas, mais j'ai souvent l'impression que soit on a un peu d'argent et pas de place, ou soit on a de la place et pas d'argent. Enfin, il y a un côté de compromis qui est difficile et c'est rare d'avoir à la fois de la place et les moyens de vivre. Les deux, c'est carrément mission impossible, j'ai l'impression. Donc moi, j'ai fait la croix sur l'atelier, clairement. Donc je suis dans une économie plus facile et en même temps plus difficile. Mais j'ai, voilà. Donc, Paris, pour moi, c'est un peu la ville, parfois, de la survie. Où, en fait, comme tout le monde est à Paris, qu'il y a une énorme pression immobilière, parce que la pression immobilière est ce qui rend la vie d'artiste difficile. Il y a une énorme pression culturelle, il y a énormément de... Voilà, c'est une ville qui est très effervescente et en même temps qui met aussi beaucoup de poids sur les artistes. Beaucoup de vernissages, beaucoup d'événements, beaucoup de choses en même temps. Et donc j'ai parfois l'impression qu'il y a un peu un côté darwinien à Paris. En fait, on est mis comme dans une espèce d'énorme endroit.
Un immense
qui,
concours.
Ouais, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont vraiment en vouloir, en fait. Ils ont une espèce de hargne. Ouais, je ressens ça, en fait, assez souvent, y compris dans des vernissages, où j'ai vraiment l'impression de rencontrer des gens où je me dis, waouh, quelle force, comment ils font pour résister, pour tenir. Mais bon, après, moi, la chance que j'ai, c'est aussi de pouvoir enseigner à côté. Donc
oui, c'est ça. Tu es enseignante, chercheuse, aujourd'hui en... C'est ça,
oui, c'est ça le...
une activité importante de ton agenda, c'est ça.
À Paris 8.
À Paris 1, du coup.
À Paris 1.
Oui, parce que c'est nouveau. Cette
d'accord,
année.
Ok, ok.
C'est pour ça que vous êtes. Okay, ça, okay. Vient d'arriver,
ça vient d'arriver. Avant, tu étais à Paris 8, oui. Maintenant, tu es à Paris.
Voilà, donc l'activité d'enseignant-chercheur, c'est. Peut-être ça me permet de survivre à Paris. Peut-être aussi sans cette activité d'enseignant-chercheur à Paris, je ne serais pas à Paris. Ça, c'est certainement possible. J'aurais déménagé déjà. Je me serais mis à Marseille comme tout le monde. Tout le monde est à Marseille, enfin, ou ailleurs. Et j'aurais pu peut-être vivre plus facilement, je ne sais pas, avec un atelier certainement. Mm-hmm. Peut-être eu aussi une autre vie d'artiste. Mais donc, en ayant eu cette vie, double vie un peu, je suis restée à Paris. Et donc... J'ai fini par adopter aussi des formes de résistance à cette ville, parfois en tirer parti aussi, en essayant de trouver les avantages et de garder les côtés positifs. Je crois que le côté positif, c'est le côté un peu manège, parce qu'à Paris, j'ai l'impression que c'est un grand manège, où tout est un peu à côté, où on peut faire plein de trucs en même temps. On peut faire un vernissage, un cinéma, aller dans son travail. Et surtout, comme je travaille en collaboration avec plein d'artistes, je peux du coup les rencontrer, ils sont tous plus ou moins à Paris ou s'ils passent à Paris. Donc là, les collaborations sont plus faciles à faire parce qu'on se voit, on travaille ensemble, etc. Donc j'essaye de tirer parti des difficultés de la ville et de renverser le problème en me disant c'est très dur. Je pense que c'est très dur, mais en même temps, il y a quand même des avantages et retournons le château de cartes pour qu'il soit viable, quoi. Après, je ne sais pas combien de temps je tiendrai... J'ai toujours l'impression qu'on est toujours à se poser cette question de se dire on y est, mais bon, un jour peut-être on va craquer, je sais pas.
Tu crois qu'il y a un moment dans la carrière d'un artiste ou d'une artiste où il est possible de partir de Paris ou même il est souhaitable de partir de Paris?
Moi, j'ai vu beaucoup d'artistes suite à la pandémie qui sont partis ou qui ont acheté une maison dans un endroit où c'est possible. Qui redapent des granges, qui vivent dans des grands lieux très aérés, et du coup qui reviennent et tout. Bon, ça c'est ça change un peu quand même. C'était au départ, mais du coup ils ont effectivement ouvert la voie et laissé entendre aux autres, à ceux qui sont restés, que c'était possible, ce qui n'était pas forcément envisageable avant.
Moi j'ai une théorie là-dessus. C'est qu'en fait, ils sont dans leur campagne et c'est merdique.
Et ils n'ont pas le wifi.
Ont la dalle. Et tu vois, ça ne va pas du tout, en fait. Ils sont tous en dépression et ils veulent que des gens viennent parce que c'est l'enfer. C'est, bon, après, c'est un avis de connard.
C'est possible. Alors moi, je viens de province. Je ne l'ai pas dit, mais je viens de La Rochelle.
D'accord, fort bien.
Donc, je suis arrivée pour mes études, comme aussi beaucoup d'artistes. Le côté monté à Paris, balsacien, voilà. Et donc, c'est vrai que je m'étais toujours dit, dans la ville où j'étais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas de lieux culturels, enfin, quasiment pas. Et je m'étais toujours dit, plutôt périr que de rester là.
À La Rochelle.
Donc, voilà, ou ailleurs, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu l'attrait d'aller dans la capitale et j'ai l'impression d'avoir suivi beaucoup ce trajet. Aller à la capitale, ça voulait dire survivre à son passé de province, voilà, de vie dans une ville, enfin, en tout cas, dans un endroit qui n'était pas celui où on voulait être. On n'a pas... voilà.
c'est la transhumance que tu as faite, Thibaut.
Oui, tout à fait. Moi, je viens de Montélimar. d'accord. Et donc, est-ce que tu vis... de quoi tu vis? Tu vis essentiellement de la fac? Est-ce que tu vends des pièces quand même? Est-ce que tu vis des bourses? Comment ça se passe?
Là, j'ai une sorte d'économie parallèle. Donc l'idée de départ, c'était de se dire, puisque je suis prof ou enseignant, chercheur, c'est peut-être aussi l'occasion de ne pas trop se prendre la tête sur les ressources financières du côté artistique et de pouvoir faire des choses en n'étant pas toujours à chercher des budgets tout le temps. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas non plus beaucoup de temps pour chercher des budgets quand on est dans un métier comme ça à côté. Donc, on a moins de temps. Donc, forcément, progressivement, l'activité artistique s'est faite dans une sorte d'économie de moyens assez forte. Donc, c'est vrai que ça a souvent été des projets assez économiques.
Ouais.
Et puis, il y a eu pas mal après de commandes. Effectivement, il y a des bourses, il y a des budgets, il y a des budgets d'expo qui se sont souvent retrouvés très vite dépassés parce que, bon, après, il y a pas mal, ça va vite hein, quand on fait un film, les budgets partent très vite. Donc, souvent, les films ont coûté pile le prix qui m'a été donné. J'ai rarement été rentable sur mes films, jamais forcément voulu l'être parce que je considérais que c'était un peu un investissement aussi. Et que, en plus, après, moi, j'adore travailler en équipe. Donc, qui dit travailler en équipe, dit payer tout le monde.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est vrai que ça fait partie du plaisir aussi de pouvoir rétribuer les gens. Voilà, vraiment quelque chose auquel je tiens énormément dès que c'est possible. Dès qu'il y a un budget, pouvoir rétribuer quelqu'un, y compris quand il s'agit d'une performance. La fameuse... Donc là, il y a l'idée de faire une performance pour Orpiste qui s'appelle « L'histoire de la frite de piscine ».
Ouais.
Je raconte l'histoire de la frite de piscine, enfin les objets en plastique, donc qui raconte l'histoire du plastique. Et pour faire cette performance, je vais devoir faire pas mal d'exercices sportifs, tout en racontant une histoire assez théorique, et sur l'histoire de la pollution, etc. Et donc là, je vais faire appel à un coach, des amis coachs, et donc je vais payer un coach. Mais du coup, je pourrais très bien me dire, l'argent, il me sert à vivre. Et, ou à investir dans une caméra. Mais non, en fait, je préfère payer un coach. Parce que là, j'ai l'impression de rentrer dans une relation humaine et qu'il y a un dialogue. Et vraiment, j'aime tellement ce travail en équipe que du coup, l'argent va... Voilà, la recherche de budget va à cet endroit.
D'accord, d'accord. Il n'y a pas de ligne honoraire dans le tableau
Il y en a, mais en fait, assez vite... En fait, c'est vraiment le slogan « Plus on est de fous, plus on rit ». Il y a un côté comme ça, un peu festif, que j'aime bien, dès que c'est possible, activer. Et le côté honoraire, est assez vite réduit.
Ouais. Et est-ce que le transfert d'argent se fait aussi dans l'autre sens ? C'est-à-dire que ton travail de la faculté te paye aussi tes productions ?
Ça peut m'arriver, notamment avec Stéphane, on a parfois un peu investi dans des livres ou... On essaye de faire un peu attention quand même. D'abord, la vie est de plus en plus chère. Mais c'est tentant. C'est tentant, c'est vraiment quelque chose qui me tente énormément de faire ça. Et j'ai cette tendance à être un peu à perte, mais avoir une certaine jubilation à l'être aussi, de me dire, en fait, j'aime bien la dépense. En fait, c'est un peu bataille de me dire... pour l'instant, puisque je peux... le fait d'avoir aussi d'être embauchée comme prof me permet de me dire ça. Je pense que si j'étais artiste uniquement sans avoir ce métier de professeur ou à côté, je pense que je ne ferais pas ça. Parce que je me dirais le lendemain, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois ? Donc là, je peux me permettre ce luxe de dépenser parfois plus. Parce que j'ai cette possibilité et je pense que j'ai cherché ce double métier pour ça, certainement.
Et tu peux nous parler du travail de professeur, justement ? Est-ce que ça nourrit ta pratique aussi ?
Oui, ça nourrit et beaucoup ma pratique. C'est pour moi en continuité, en fait, je les sépare, mais finalement, c'est relié complètement. L'impression que j'ai, c'est que plus ma pratique est riche, plus je fais de choses, plus ça nourrit mon activité d'enseignement et réciproquement, que les deux se nourrissent tout le temps, que si par exemple il y a une expo avec des artistes, j'ai fait venir les étudiants, je leur fais rencontrer d'autres artistes, enfin tout est en lien. Et il y a énormément de... Pour moi, en fait, j'ai envie de dire, quand je fais un cours ou quand il y a une activité orale de prise de parole ou de création d'un groupe, j'ai un peu l'impression d'être dans la même démarche que quand je fais un film ou quand je suis en train de monter. Il y a une transmission, il y a l'idée d'inventer des concepts. Donc, je suis souvent en train de chercher, aussi bien pour mes cours que pour des installations, des idées en permanence. Et l'idée, souvent, c'est d'arriver à créer un cours qui soit une œuvre, en fait.
Oui.
Comme une œuvre d'art où on invente des choses et on invente des nouveaux concepts ou des nouvelles manières d'approcher les choses. Il y a vraiment l'idée d'invention qui est tout le temps là. Donc c'est un petit peu le même type de raisonnement et de recherche.
C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui ont trouvé leur naissance à travers un cycle de cours, de présentations que tu réalisais.
Presque. Il y avait un cours que j'avais fait avec Pierre Kasounoguès et Stéphane Degoutin qui s'appelait Stand Up, qui reprenait d'ailleurs un cycle de conférences qui avait eu lieu ici qui s'appelait Stand Up Élargi, un événement. Et dans l'idée, chaque semaine, on faisait un cours de stand-up. Mmh. Donc, on faisait venir des artistes du stand-up, des artistes de l'art contemporain qui font du stand-up. Et nous, on n'y connaissait mais rien du tout. On n'en avait jamais fait. On était timides comme tous les trois, limite. On était des anti-stand-up. C'était assez drôle. Mais du coup, à force de faire ce cours, à force de faire venir des gens et d'apprendre par les intervenants, les étudiants qui étaient bien meilleurs que nous, et ben, ça nous a donné envie et ça nous a permis de nous lancer. Et je pense que si aujourd'hui, je fais quelques performances, ça vient un peu de ce cours.
D'accord.
Qui m'a donné envie finalement de passer à l'action et de passer alors que j'avais jamais eu l'idée avant en fait. Donc ça, parfois ça permet de lancer des choses dans des voilà, ça, y a un côté assez envoûtant comme ça de ouais.
D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment apparaît une idée? Est-ce que tu es drivé par une thématique, par exemple, plus conceptuelle, etc., que tu vas chercher à mettre en forme, à documenter, puis à faire aboutir dans une forme X ou Y, ou est-ce que des fois c'est l'inverse, c'est des envies de plus formelles, justement, de performance, de démonstration, qui après trouvent un écho conceptuel, enfin, comment apparaît une idée?
Y a plusieurs manières. Il y en a une, par exemple. Je pense à une parce que je sais pas, ça m'a paru lumineux. Du coup, j'ai une sorte de métaphore de feu dans ma tête. Mais avec Pierre Kasounoguès, on a été pris dans les incendies de la Teste, le Pila, la dune du Pila, il y a 2 ans.
Ouais.
Et donc, on a été évacués, tout ça, toute l'histoire des incendies qu'on avait vraiment vécu de plein fouet. Et donc, on s'est dit, après ça... il faudrait quand même qu'on documente ce qui s'est passé parce que c'était énorme. Et donc, un événement autobiographique, on va dire, donne naissance à une envie plutôt. Pas une idée, une envie et un désir. Et en passant du désir, je suis allée chercher tous les films réalisés par les Instagrammeurs et les gens sur TikTok à ce moment-là. Et les gens sur YouTube qui se filmaient. Donc j'ai fait toute une masse de recherches sur cet incendie. Et puis après, là, je l'ai laissé passer. J'ai un peu enterré tout ça parce que c'était un peu dur. Et puis un an ou 2 ans après, là, je me suis dit, il faut que je sorte cette matière et je vais en faire un film. Là, c'est... Alors là, est-ce que c'est une idée, d'ailleurs? C'est encore un désir. Je crois que c'est pas encore une vraie idée. L'idée après elle va se mélanger à une autre, ça va devenir une idée. Là c'est plus donc ça commence souvent par un très fort besoin, limite souvent autobiographique, qui touche ma propre vie. Alors ça sera par exemple l'incendie, mais ça a pu être avec Amazon. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'empire d'Amazon et son entrepreneur controversé. Et là donc il y a eu un livre. Un livre qui s'est écrit qui s'appelle Planète B renversée. Et le livre, il est venu sur le désir de rendre public des éléments que j'avais associés ensemble qui me semblaient importants de les rendre publics à la manière d'un journaliste, mais en même temps de faire que cette enquête journalistique, qui était vraiment une enquête qu'on aurait pu laisser à un journaliste en fait, mais de la rendre vraiment poétique et voire conceptuelle, et de faire naître des concepts artistiques ou des contre-propositions au type d'Amazon pour proposer des propositions parfois encore plus sulfureuses, encore plus problématiques que ce qu'ils proposent, en le poussant dans ses retranchements. Donc là, j'ai fait un travail de spéculation qui faisait naître des idées d'objets, des idées de plateformes, des idées de scénarios, dans lequel je greffais pour en fait exorciser ce monstre qui me semblait insupportable, que j'avais envie de faire sortir de mon corps. Là. Donc il y a un travail d'exorcisme qui sort de moi et qui, en quelque sorte, fait naître plein d'idées. Il y a beaucoup d'exorcisme, en fait, dans les idées.
Est-ce que tu as une méthodologie, un processus que tu appliques, justement, quant à ces problématiques que tu abordes? C'est-à-dire, l'exorcisme, elle a déjà répondu à la question, en fait, presque, mais
Je peux avoir une méthode quand même, parce que à chaque fois, et surtout avec Stéphane, on est un peu comme ça tous les deux. On est des collectionneurs et des boulimiques d'images et de sons. Et donc souvent, quand on est intéressé par un sujet, on essaye de tout connaître. Un peu encyclopédique. Et tout savoir sur le sujet, mais tout dans les, même des choses qui vont servir à rien. Et si possible, d'en tirer parti et d'en prendre des extraits, des images, etc. Donc, c'est vrai quand Internet est arrivé et que, en particulier, la naissance de Google Images et du YouTube, moi, c'est le moment où j'ai commencé à produire des pièces comme artiste, quoi. Mmh. Et c'est là tout de suite est née la collection, la compilation des genres qui sont arrivés. Donc, j'ai été à plein dans ces formes-là de compilation, collection, agencement. Remontage, mixage à partir de ces matériaux. Mmh. Et à chaque fois, la méthode, c'était de faire des classifications, des atlas, des encyclopédies personnelles, une sorte de musée personnel où, où on passait parfois des années à apprendre tous les militaires qui dansaient en Irak et en Afghanistan pendant la guerre d'Irak, par exemple.
Ouais.
Des choses comme ça. Et on essaye de vider Internet de ça, qu'il n'en reste plus. Donc, comme on est deux, en plus, c'est plus facile parce qu'il y en a toujours un qui trouve un truc que l'autre ne trouve pas. Donc, c'est un peu... Je ne sais pas si vous avez joué aux collections Panini quand vous étiez enfant.
Ouais, ouais.
Ouais, oui, c'est un peu pareil.
D'accord, d'accord,
donc, tu essayes d'avoir toute la collection.
OK.
Tous les Pokémon.
Voilà.
Est-ce que t'as une galerie ?
Alors, non, j'ai eu un moment, dans un instant très bref, une galerie, mais ça a duré à peine deux ans, un an et demi. C'était la galerie Michel Chaumette parce que il s'est trouvé qu'il y a une exposition juste après le diplôme des arts déco qui s'est passé là. Arrive le 11 septembre 2001. Gros coup de massue dans le monde de l'art. Et parce que c'est au moment de la première expo. Donc, j'ai dit que j'étais prédestinée à arrêter la galerie.
Oh, d'accord.
Ces collectionneurs américains s'enfuyaient tous. Et puis non, après, je me suis dit aussi que après, ça avait été compliqué parce qu'elle m'avait posé plein de problèmes, de questions sur la vidéo, l'original, ne pas la montrer, faire des clauses. Et en fait, assez vite, mon amour étant quand même l'image en mouvement, la musique, le cinéma, je me suis dit l'économie de l'original pour le film, c'est pas évident et il y a quand même sur des sujets assez politiques des choses à dire, à transmettre en... sans avoir besoin de faire de la rétention. Donc j'ai pris un peu le parti dès 2000 d'être dans une sorte de diffusion sans penser à l'idée de...
D'accord.
À ce moment-là, mais maintenant, enfin, en ce moment, la question se pose un peu plus sur la
galerie. C'est-à-dire, pourquoi ?
Parce que peut-être que ça m'intéresserait d'aller chercher une galerie ou de redémarcher, dans le sens où il y a des choses qu'on ne peut pas faire en dehors de la galerie, par exemple. Je me rends compte. Par exemple, plusieurs fois avec Stéphane, on a des idées d'installation, de performance ou même d'objets. Et comme on est surtout dans des centres d'art ou des festivals ou des lieux improbables, alternatifs, des choses que des amis, des choses qui n'ont pas de critères donnés, et on n'est pas toujours dans des conditions de perception, de visibilité ou même de construction adéquate de l'œuvre. Et donc c'est vrai que ça a donné généralement des livres, des films, des éditions de choses qui se diffusent. Alors qu'il y a quand même une partie de notre travail qui est parfois sur l'objet, l'installation, la concentration, et de réfléchir à des formes très formelles. Donc on est parfois un peu frustré d'avoir mis ça de côté et ça peut nous... Ça nous manque un peu parfois.
D'accord. Tu sens qu'il y a des... Enfin, vous sentez qu'il y a des pièces qui peuvent vraiment s'épanouir, qui peuvent s'épanouir en galerie et qui pourraient se vendre et pourquoi pas.
Ou en tout cas au moins avoir l'occasion de naître, d'éclore.
Très bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi du rapport à la vie des autres, de l'autre ? Est-ce que c'est pour ça que la question arrive après la question de la galerie ? C'est est-ce que j'imagine que tu as déjà répondu aussi à cette question-là, mais où est-ce que tu trouves le regard qui va t'accompagner dans l'élaboration d'un travail ?
Alors, comme il y a pas mal de collaborations, déjà, le regard, l'autre est là, souvent. Et souvent, des fois, on est trois ou deux, ou puis il y a le groupe. Donc, j'ai beaucoup le regard. Il y a beaucoup le regard. Mais parfois, c'est bien d'en avoir encore plus. Et on n'est jamais, en fait, je pense qu'on n'en a jamais assez. Et alors, la grande difficulté pour moi, c'est d'accepter de me risquer à montrer quand c'est pas fini. Et c'est ce que je demande à mes étudiants, donc c'est terrible d'avoir peur de ce que je leur demande, parce que je les oblige à me montrer en cours tout le temps, et moi-même, je sais que c'est difficile. Donc souvent, j'ai un peu honte, je passe par... Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler encore. Il y a encore du travail là-dessus, même si j'ai déjà beaucoup... enfin, voilà, je ne suis pas jeune, mais j'ai l'impression d'être jeune là-dessus, sur le regard. Et l'écoute, il y a le regard et l'écoute aussi. Et la critique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter la critique. Et parfois, la peur de montrer, c'est la peur de la critique.
Oui, tout à fait. Oui,
mais alors du coup, ça viendrait de qui tu l'attendrais de qui, ce regard-là?
Bah,
la commissaire d'expo, là, tu travailles dans le cadre du festival Hors Piste. Est-ce que t'attends ce regard-là de Géraldine?
Ça serait génial si Géraldine pouvait m'assister dans ce regard, oui, ça serait super. Après, j'attends, oui, forcément, c'est très... Alors, j'ai eu de la chance, on a fait deux livres avec une éditrice super qui s'appelle Clémence Sera de 369 Éditions, mm-hmm. qui était géniale parce qu'elle a été un regard et une écoute sur nos deux livres, où là, j'ai compris ce que c'était que quelqu'un qui... Un éditeur, quoi, ouais. Vraiment, qui est là, qui donne un regard.
Et qui pouvait aiguiller.
Qui aussi. Fait aiguiller, qui fait réécrire. Et c'était vraiment génial, et c'est grâce à elle qu'il y a eu ces deux livres. Mm-hmm. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on c'est vrai qu'il pourrait être, qui serait utile aussi au cinéma, dans les films, et que jusqu'à présent, ça, c'est quelque chose que je pense qui est très utile. Quand on parle de galeriste, c'est aussi ça, je pense, ou de producteur. Ouais. Et c'est très important. Donc ça, oui, Géraldine.
Peut-être, je crois qu'elle est là, hein, normalement.
Sans doute sur le chat.
Mais c'est marrant parce que ce que tu nous dis, c'est pas commun dans les réponses des artistes. Souvent les artistes sont, ils ont, ouais, ils disent pas ça.
Ils disent oh, j'ai pas besoin.
Alors en cinéma, tout ce qui est cinéma nécessite quand même beaucoup de regards parce que c'est du temps, c'est de la longueur. Il y a besoin de recul et souvent on manque de distance quand on fait des films parce qu'on est collé à son écran, on a passé un an derrière son écran à faire son film, à voir ses images, on les connaît par cœur, que si on n'a pas de regard extérieur on n'a plus de
garde-fou,
on n'a plus de garde-fou, c'est pas tout à fait pareil en tableau, enfin en dessin en...
Oui.
Il y a une ambiance forêt tropicale.
Oui, hein.
C'est...
Ça me va très bien, hein, en forêt tropicale.
Bon. C'est le côté ASMR du podcast.
Je ne m'y attendais pas. Influence, effet de mode, comment tu te positionnes par rapport à l'environnement créatif? Est-ce que tu t'influences? Est-ce que c'est important justement au contraire de t'éloigner des choses que tu vois autour de toi? Comment ça se passe?
Moi, j'ai l'impression que je suis très... J'aime beaucoup me nourrir de choses autour de moi, donc je ne suis pas du tout à m'éloigner. Au contraire, je serais plutôt à être en demande, à voir. Et surtout, j'ai l'impression que je dois beaucoup aux autres artistes. Enfin, il y a une sorte de dette. Je me sens beaucoup en dette par rapport à ceux qui m'ont nourri. Et notamment, je pense que j'ai, dans ma petite ville de province, du pauvre Rochelet... Pourtant, La Rochelle, ça a changé. Maintenant, c'est plus comme avant. C'est une grande ville, maintenant. À l'époque, c'était plus petit. Et donc, il y avait une médiathèque. Une bibliothèque. Pareil.
Non, du tout.
Mais donc, à cet endroit, il y avait des livres. Et en fait, moi, j'étais tellement en manque d'artistes qu'il n'y avait pas. Que je passais mon temps à les chercher dans les livres et j'étais dans une espèce d'état j'étais affamée de références, mais il y avait rien, enfin j'avais rien à mettre sous là-dedans, quoi. Il y avait pas de film, dans ce vide absolu j'ai pris l'habitude d'être assez boulimique.
D'accord.
Et donc voilà, je peux voir des tonnes d'expos, des films, au moins un film par jour minimum.
Et tu sens que ça peut influencer ta manière de enfin ta production?
Ah oui, oui, tout évidemment, à fait. Ouais, ouais. Ça, en tout cas, ça peut me donner le courage de faire ma production. C'est plus, pas forcément, ça va pas m'influencer, parce que je pense que peut-être pas suffisamment pour que ça change ma manière de penser ou de faire, mais ça va me donner du courage plutôt.
D'accord, d'accord, d'accord.
Ça va me débloquer ou ça va me désinhiber.
Ok. Et t'as déjà été trop influencé par un travail ?
Ah bah oui, forcément. Ouais. Bah, moi, j'étais hyper influencée par Godard, Chris Marker, Varda, La Nouvelle Vague, au point même que ça a été un peu un problème. Il a fallu un peu tuer le... Ouais. C'était trop... J'avais presque une forme de jalousie à cet égard de La Nouvelle Vague, qui a été passée à la bonne heure, au bon moment. Enfin, il y avait cette idée-là de se dire, oui, eux, ils ont inventé le montage, ils ont inventé une liberté de parole... Mais évidemment, c'est faux. Et après, on comprend qu'en fait, il y a encore plein de... Donc, c'est une espèce d'aberration optique.
On peut parler de réseautage et de représentation. Est-ce que tu vas au vernissage ? Est-ce que tu sollicites des rendez-vous ? Comment tu fais ?
Alors, le problème du temps fait que j'ai jamais trop sollicité de rendez-vous parce que j'ai eu le problème de temps. Voilà, pas assez de temps pour tout faire à cause d'une espèce de double vie. Mais par contre, je suis entourée de pas mal d'amis artistes avec qui il y a quand même beaucoup de liens. Et donc, il y a une espèce de tribu autour de nous. On a assez vite, en fait, quand on faisait avec Stéphane de Goutin Nogo Voyage, on avait fait un collectif où on faisait intervenir d'autres artistes dans des projets. On commandait des pièces, etc. Après, à l'université, il y a tout ce qui est colloque. Donc, en fait, c'est quand même des réseautages indirectement, même si on dit que ça ne l'est pas. Il y a indirectement des réseaux qui se mettent en place. Et il y a des écoles, il y a des... Voilà, des... Donc ça a lieu. Mais par contre, c'est vrai que j'ai parfois l'impression que les artistes qui donnent des vrais rendez-vous, des visites d'ateliers, font des choses qui ont l'air chouettes. Et je me dis, ça doit être bien de faire ça. J'ai un peu une sorte d'admiration pour cette capacité à donner des rendez-vous. Alors nous, on n'a pas d'atelier, donc forcément, les visites d'ateliers, c'est pas facile. Mais on pourrait donner des visites d'ordinateur. On leur montrerait notre écran. Regardez mon fond d'écran. On pourrait imaginer des choses équivalent en numérique, quoi.
En tout cas, ça fait pas partie d'un agenda de vraiment consciemment à mettre en place une méthodo et une façon de provoquer les rencontres en sachant qui allait rencontrer, etc.
En fait, j'avais pas pensé, mais c'est de bonne envie là maintenant. J'imagine. Non, mais je pense aussi pour les étudiants. Je me dis oui, des fois, il faudrait que je leur fasse rencontrer plein d'artistes. À un moment, je me suis dit, je ferais bien un cours où je les emmène chez plein d'artistes. Mm-hmm. On fait pas forcément visite d'atelier, c'est un peu trop classique, mais on fait des visites de chambres, les chambres des artistes, par exemple, ou les bureaux des artistes, ou les cafés des artistes. Parce que les artistes, enfin, moi, je vais. Alors, par exemple, j'ai pas d'atelier, mais j'ai un café. Mm-hmm. Mon café, c'est mon atelier. Mes cafés, il y en a deux. Mais du coup, ça peut être des visites des lieux des artistes. Et oui, ils nous parleraient un peu comme là, où c'est super.
C'est vraiment l'ADN du projet, c'est ça. C'est vraiment l'aspect pédagogique des étudiants. Ouvrent un catalogue de plein d'artistes et découvrent leur parcours. Et peut-être, si jamais ils pourraient s'investir, s'inspirer de leur parcours pour peut-être aller...
Je vais leur faire écouter les émissions.
Oui, il faut bénéficier du récit des artistes, etc.
Comme ça, il y aura ta maman, ma maman, et puis un ou deux étudiants à toi. Ce serait vraiment super sympa.
Peut-être plus qu'un ou deux.
Trois, oui.
Les réseaux sociaux, etc. Là, c'est quelque chose d'important pour toi ?
Là, vous mettez le doigt sur un engrenage. Alors jusqu'à présent, j'ai jamais eu de réseaux sociaux, sauf depuis le lancement de Planète B, où avec Clémence Sera, l'éditrice de Planète B, on s'est dit, mais comment faire pour vendre ce livre ? Clémence doit manger à Noël, il faut qu'elle vende ce livre. Donc je me suis mise sur Instagram. Ouais. À ce moment-là, c'était, je me rappelle bien, c'était en 2021. J'ai pas fait ? Quelle angoisse ! Je pouvais effacer ce moment. J'aimerais que ça n'ait pas existé. Non, mais c'est horrible, c'est hyper addictif. Je ne sais pas comment les gens font.
Ah bah oui, toi, on surcharge d'images, là, je pense que...
C'est vraiment atroce. Donc, je me demande, en fait, si je vais continuer là-dedans, parce qu'en plus, moi, je suis assez joueuse, j'adore jouer. Donc, j'ai un peu addict au jeu, au clic, aux images. Et donc, là, il y a le clic, les jeux, les images, les petits cœurs. C'est horrible.
Je te conseille TikTok.
Mais c'est pas pareil parce qu'il y a moins de.
Mais l'algorithme de TikTok.
Oui, je connais bien aussi.
Il est tellement bien. C'est tellement.
Et là, je vais me mettre à danser si c'est ça.
Non,
et à chanter.
Mais en tout cas, c'est pas un terrain que tu investis pour diffuser tes productions.
Bah si, depuis, du coup, j'ai vu que c'était plus facile que de faire un mailing où on a toujours l'impression que, voilà, donc c'est devenu une sorte de facilité de communication. Ouais. Et je constate que les artistes font ça et que, du coup, on est quand même rentré dans un problème, parce que, par ailleurs, on travaille aussi sur les plateformes, de se dire qu'on est en train de donner notre vie à Monsieur Facebook. Voilà, et que Marc est en train d'aspirer la vie des artistes et qu'on est en train de lui donner du sang d'artiste. C'est un peu un problème, quand même. À mon sens.
Ouais, oui,
oui, bien sûr.
Voilà. En tout cas, jusqu'à présent, j'y avais échappé. Donc, j'ai sombré dans le problème.
C'est-à-dire qu'au même titre que d'être présent sur Paris, ça peut être important pour faciliter des rencontres et des échanges et donner lieu à l'existence de boulot, à ce même titre-là, c'est sans doute aussi important d'être présent sur les réseaux. Quoi. C'est surtout ça que ça met en lumière. Bah, quoi.
Le problème, c'est que le réseau n'est pas neutre et que c'est...
Bien sûr, il est en barque.
Alors que Paris, c'est encore une ville publique. Les rues, il n'y a pas marque dessus.
C'est sûr.
Donc c'est un petit peu... Le problème, il est là. Quoi. C'est-à-dire que si c'était comme Paris, moi, ça m'irait très bien de jouer à un petit mini Paris. Mais derrière ça, c'est de la publicité. Je suis rentrée dedans. Voilà, je suis rentrée dans le moule Instagram ou TikTok, mettons. Et je me dis en ce moment, qu'est-ce qui va se passer ?
Ouais.
Quand il y aura plein de robots là, parce que bientôt l'intelligence artificielle va créer des comptes. Peut-être que ça va nous sauver. Il y aura que des comptes artificiels et avec des tableaux qui se généreront tout seuls à l'infini. On pourra plus savoir qui est le vrai artiste du faux artiste. Je sais pas, c'est peut-être une solution peut-être pour.
La question qu'on se pose, enfin que je me pose en tout cas moi, c'est comment participer à ça et rester juste. C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessaire et si c'est nécessaire, donc on va admettre, c'est important d'être présent. Donc, allez. Comment le faire bien, pas être à côté de la plaque et puis rester. Moi, j'ai une utilisation qui est catastrophique. Je suis boulimique de ces trucs-là. Et je suis vraiment à côté de la plaque, même dans ma manière de me présenter. Je le fais comme un boomer. Enfin, bref.
Non, mais je pense que, je sais pas, par exemple, une chaîne de radio comme ça, de podcast. Je sais pas si elle était sur une radio, je sais pas, on pourrait dire podcast France Culture ou le podcast du Centre Pompidou. Par exemple, le Centre Pompidou pourrait avoir un podcast, un vrai podcast. Je veux dire un podcast sur la plateforme du site, pas le. Là, il y en a un vrai, mais je veux dire avec une chaîne de podcast du site internet.
Ouais.
On imagine, on peut tout imaginer, mais qui marche et ça marcherait super bien à mon avis. Franchement, hein, ça marcherait. Non mais sincèrement. Et du coup, on pourrait se dire que Instagram vient en plus et vient pas remplacer. Voilà, c'est ça.
Non, du tout, c'est marrant.
Dans ce sens-là, en fait.
Est-ce que tu peux nous dire la pire chose qu'on t'a dit pendant un vernissage ? Attends, on va attendre
que ça me laisse le temps de.
Mais ils sont combien ?
Il y a un train fantôme.
Est-ce que tu peux nous dire la pire chose qu'on t'a dit en vernissage ? Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à cette question ?
Alors, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en réfléchissant à cette question, je me suis dit, c'est bizarre, c'est marrant, j'ai comme si j'avais jamais eu de pire chose dans un vernissage. Du coup, ça m'a fait réfléchir au vernissage. Je me suis dit, peut-être que j'en ai pas fait assez, ou du coup, je me suis remis en question sur les vernissages. Mais certainement, ça a dû avoir lieu, mais j'ai beau chercher, je trouve pas. C'est vraiment bizarre, hein. Pourtant, j'ai plein d'anecdotes partout, mais Peut-être c'est que je suis dans une posture tellement aussi, j'ai une posture tellement bizarre où j'ai plein de lieux différents qui sont pas que des vernissages. Mm-hmm. Ça doit être pour ça. Il y a mon côté décalé, je pense.
Et est-ce que tu as déjà fait des grosses bêtises dans le taf?
Ah oui, il y a des bêtises, ça, j'en ai fait. dans des expos, des erreurs d'accrochage, pas mal.
C'est quoi une erreur d'accrochage?
Bah, de se planter dans son accrochage totalement. De se dire après coup, en fait, de se rendre compte souvent après coup de ce qu'on aurait dû faire. Mais ça, je pense qu'on a tous vécu ça dans le... Mais de passer à côté d'une occasion rêvée, de se dire, mais en fait, on a tout foiré, c'était pas ça, et là, on est en train de rater l'occasion du siècle, et en fait, mais non, mais qu'est-ce qui t'a pris? Donc ça, ça m'est souvent arrivé. Moi, je pense que, alors, j'ai un exemple, je l'ai fait avec Stéphane, je sais pas si Stéphane partage mon avis, et je pense qu'il a un autre avis, mais moi, je l'ai vécu comme ça. À la Fondation EDF, on faisait plusieurs installations dans la même expo. On a eu l'idée de montrer des crises de gens qui sont dans les aéroports, qui font des grosses crises, des crises de nerfs, avant de prendre l'avion, parce qu'ils ont très peur de l'avion, ou parce qu'on les interdit de passer, ou parce qu'on leur demande de se déshabiller, mais ils ne veulent pas. Mm-hmm. En tout cas, il y a beaucoup de sujets de crises possibles avant de prendre l'avion, surtout pendant la pandémie, à cause du masque, il y avait beaucoup d'Américains qui refusaient de mettre le masque, etc. Il y a eu énormément de crises. Et donc, on a fait une compilation de toutes ces crises d'aéroports. Et le film était vraiment extraordinaire parce qu'il les montrait toutes, les unes après les autres. Et l'idée qui m'est passée par la tête avec Stéphane, ça a été de les mettre dans l'espace sur 6 écrans et de faire 6 films de ces crises. Et au moment, on a eu un moment de se dire, mais en fait, non, un seul écran sur un siège d'avion, c'est mieux, ça reproduit la situation. À l'époque, on scotchait les passagers avec L-Citron, vraiment, avec du duct tape vert d'ailleurs, ou orange. Vous avez peut-être dû voir des films, non? Donc c'était souvent Ryanair qui avait des problèmes de passagers ivres. Et pour s'en sortir, il est scotché à... Non mais vraiment. Donc il y en avait tellement... Non mais c'est... Il y avait tellement de passagers scotchés qu'on s'était dit on va faire une bande de passagers scotchés. Et c'est comme ça que l'idée est venue en fait. Et moi je trouvais ça dingue et je trouvais ça tellement... En même temps c'était désopilant, même si c'est triste. Bon après ils sont réveillés. Voilà. Donc il y avait un côté humour et triste et dramatique et tout ça. Et en fait, l'erreur de cette installation, à mon sens, ça a été de l'avoir montré sur 6 écrans de télé énormes, dans le noir, et ces écrans qui passent. Et en fait, c'est tellement dur que le pauvre spectateur... Voilà, on a réussi à l'assommer, le spectateur, en fait. Ouais. Alors que sur un écran, dans ce petit siège, ça marchait tellement mieux. Et le truc, c'est qu'on s'en aperçut, enfin moi, le jour du vernissage.
Oui, c'était trop tard.
Et l'expo était... Et là, le moment où on a envie de... Dire, mais pourquoi
on voilà. Rebobine, on refait.
Ça met souvent enfin, genre de situation. Je sais pas
si... C'est rigolo. Est-ce que tu fais des dossiers? Est-ce que tu fais des concours, des résidences? Ou là, c'est trop, trop de choses en même temps?
Un peu de tout, en petite quantité, avec modération. Donc un peu de résidence, un peu de... Donc pas trop, parce que trop, pas assez de temps. Et peut-être aussi mon organisation défaillante. Et aussi certainement la peur d'avoir des noms. Alors moi, j'ai peur de l'échec. Hein. J'avais peur de faire l'euphémisme, mais j'ai souvent peur de me prendre des grandes claques. Donc parfois, j'essaye dans des situations où je sais que ça peut marcher quand même. Et j'essaye pas les gros trucs où je me dis ça marchera jamais.
Tu fais pas 30 dossiers à l'année. Ouais, et s'il y en a 28 qui refusent, c'est pas grave.
J'essaye de faire un truc où je me dis au moins là, il y a peut-être une chance. Donc je suis... Toujours la peur de l'échec. Mais donc, les résidences, en fait, le peu que j'en ai fait était toujours génial parce que c'est au moins le moment où je peux sortir de mon univers quotidien. Et là, ça devient le moment rêvé, quoi. Le meilleur moment, c'est les résidences.
D'accord.
Donc, j'essaye d'en refaire. Alors, avec Pierre, on a eu la chance, on va faire la résidence La Villa Bruchère bientôt, là. C'est une résidence d'écrivain, écrivain-artiste. Et voilà. Et sinon, un peu de production. En fait, avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'un bon dossier, ça faisait vraiment avancer dans son travail. Ça, j'ai compris ça il y a 12 ans. Avec Pierre, on a fait quelques dossiers pour des bourses de films. Et en fait, en articulant bien son dossier, ça nous a vraiment fait avancer notre film. Et depuis qu'il y a eu ce déclic, ça devient plus un plaisir de faire un dossier.
D'accord.
Parce que, ah oui, en fait, on comprend mieux, on veut ça, nanana. Mmh. Et du coup, oui, ça commence à se déclencher. Pendant longtemps, c'était un calvaire. Et là, maintenant, je me dis, ah oui, en fait, ça peut devenir intéressant, en fait. Mmh. Simplement même pour soi. Au moins, on s'exprime. Voilà.
Ok. Oui.
Est-ce que tu pourrais nous dire les actualités personnelles à venir? Alors, j'imagine le festival hors piste.
Ah, le festival hors piste avec l'histoire de la frite de piscine. J'espère la performance raconte à la fois l'histoire du plastique, l'invention du plastique expansé polyuréthane qui servait à faire ses frites de piscine, qui a en fait été l'arrivée de tous ces plastiques et d'une pollution en plastique qui s'est accrue jusqu'à aujourd'hui et qui ne fait que s'accroître en courbe exponentielle. Et la frite me sert à exprimer les courbes en fait, du plastique et les courbes ce qu'on appelle la psychologie positive, qui à l'inverse, qui elle aussi a été exponentielle. Mmh. Donc il y a deux courbes exponentielles que je cumule. Je fais une histoire du plastique, une histoire de la psychologie positive et du coaching à travers la frite de piscine. Et des exercices qui viennent exprimer ça, spéciaux.
D'accord.
Donc c'est assez physique. Et donc à la fin, il y a un moment participatif où tous les spectateurs peuvent participer et je leur distribue des frites.
D'accord.
Et donc il y a un moment de... Je ne le dis pas, mais... Et donc ça, c'est pour la performance. Et sinon, j'expose au Hangar Y une vidéo, un film qui a été écrit avec Pierre Kasounoguès et qui raconte une sorte de dystopie. Enfin, en tout cas, un monde parallèle où le soleil est trop chaud et vient être masqué par des obturateurs. Et les personnes ayant peur de ce soleil trop chaud doivent se réfugier, vivre à l'écart, et vouent un culte au soleil. Et pour se rappeler du soleil d'avant, font appel à une intelligence artificielle qui, éduquée avec quelqu'un qui a des souvenirs précis, leur permet de retrouver le soleil d'avant. Qui va leur prédire un avenir, etc., etc. Donc ça reprend un peu la jetée de Chris Marker dans les... Et que ça va durer. Le film est diffusé jusqu'au mois d'avril.
D'accord.
Et puis, les futures actualités, c'est cette résidence à la Villa Brugère et un projet de livre avec Pierre Kasounoguès sur les mythes des IA, qui raconte à travers 5 contes... des IA contemporaines, 5 histoires d'IA un peu dark.
Okay.
Et avec Stéphane, on travaille sur les détournements des images de stock avec une histoire de... En fait, on a écrit un article qui va devenir une performance sur l'histoire de l'automatisation du sourire. Donc là, c'est notre côté coaching. Donc c'est en gros l'histoire de la photo qui sourit toute seule. Parce que vous savez, il y a les applications pour faire sourire les photos. Et donc nous, à travers notre histoire du coaching, on raconte comment les photos ont appris à sourire du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à sourire à notre place.
D'accord.
Voilà.
Super.
Merci beaucoup.
Si on veut te suivre sur les réseaux, il faut aller où du coup?
Il y a un compte Instagram.
@
Gwenola _wagon.
Voilà.
Et puis il y a D_W. Le binôme avec Stéphane a un compte à lui.
D'accord.
Et voilà. Et puis mon site internet d-w.fr.
Très bien. Okay. Gwenola Wagon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les travaux de Gwenola sur son site gwenolawagon.com ainsi que sur son Instagram @gwenolawagon. Vous pouvez également soutenir le projet Sans Titre sur notre Instagram @sanstitre.cast. Merci beaucoup au Centre Pompidou, à Cyril et à la régie pour son accueil et son soutien. Générique par Olivier Schloberg. Bisous.